débute demain dans votre économie sans détour avec vous, Diane Burgel-Vernet. Bonjour Diane.
Bonjour François.
Bon, Coupe du Monde qui est déjà celle de tous les records. Hein. Diane, pour la première fois, 48 équipes à la compétition. On va jouer 104 matchs, c'est 40 de plus qu'avant. L'empreinte carbone estimée de ce Mondial 2026 pourrait devenir la plus élevée jamais enregistrée pour un événement sportif, puisqu'on le rappelle, ça se joue dans trois pays, hein, Canada, États-Unis et Mexique. Les recettes commerciales également qui devraient atteindre des sommets, Diane, car vous allez nous l'expliquer, le football est aussi devenu l'une des industries les plus mondialisées de la planète.
Alors comment en est-on arrivé là, François? Il faut, pour le comprendre, remonter une trentaine d'années en arrière. Jusqu'aux années 80, les clubs vivaient principalement de la billetterie. Les matchs se jouaient souvent devant des supporters locaux. Les meilleurs joueurs restaient souvent longtemps dans leur club. Le football était certes déjà professionnel, mais il demeurait largement ancré dans son territoire. Progressivement, il va devenir une société commerciale, les joueurs des actifs et les clubs des objets d'investissement.
Et c'est dans les années 1990 que tout change.
Oui, c'est le tournant. Dans leur ouvrage qui vient de paraître, Foot Business, les 30 glorieuses, les économistes Luc Arondel et Richard Duhautois montrent comment le football européen entre alors dans une phase de croissance exceptionnelle. Il y a la création de la première ligue anglaise, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, l'arrêt Bosman qui libéralise le marché des joueurs et l'arrivée des chaînes de télé payantes qui font exploser les revenus du secteur. Une mécanique économique se met alors en place. Les diffuseurs se concurrencent pour obtenir les droits télévisés. Les droits augmentent, les clubs encaissent davantage, ils recrutent les meilleurs joueurs, les audiences progressent et les droits augmentent encore.
Et c'est là que le football entre dans un cercle de croissance continue.
Avec une particularité que rappelle Luc Arondel, les clubs ne se comportent pas comme des entreprises classiques. Leur objectif premier n'est pas de maximiser les profits, mais de gagner des matchs. Et dès qu'un club gagne davantage d'argent, il le réinvestit généralement dans les salaires ou les transferts pour améliorer encore son effectif. C'est pourquoi le football produit beaucoup de revenus, mais relativement peu de bénéfices. À partir des années 2000, une deuxième étape commence, des milliardaires, puis des États investissent massivement dans les clubs. Roman Abramovich à Chelsea, Abu Dhabi à Manchester City, le Qatar au Paris Saint-Germain. L'objectif, il n'est alors pas toujours financier. Il s'agit de prestige, d'influence internationale, de visibilité diplomatique. Posséder un grand club, ça devient un instrument de puissance. Et depuis quelques années, une troisième vague apparaît, si vous voulez, celle des fonds d'investissement, principalement américains. La vraie puissance financière du football européen est américaine. La moitié des clubs de la première ligue anglaise appartiennent désormais à des investisseurs américains, notamment Arsenal, Manchester United, Liverpool. Cette fois, la logique change. Un État, il peut accepter, si vous voulez, de perdre de l'argent si c'est pour renforcer son image. Un fonds d'investissement, lui, il cherche absolument un rendement.
Évidemment. Mais cette évolution, elle suscite aussi des résistances, Diane.
Avec une question presque philosophique. Un club de football est-il une entreprise comme une autre? Pour Jérôme Latta, journaliste qui a écrit ce que le football est devenu, la réponse est clairement non. Les clubs, ils sont aussi des patrimoines collectifs. Ils représentent une histoire, une identité, un territoire, ce qui explique aussi les modèles financiers alternatifs. Alors l'exemple le plus connu, c'est celui de l'Allemagne. La règle dite du 50+1 empêche un investisseur de prendre seul le contrôle d'un club. Les adhérents conservent la majorité des droits de vote, mais l'Allemagne n'est pas seule. Alors grossièrement, en Espagne, le Real Madrid, le Barça appartiennent toujours à leurs socios, des centaines de milliers de membres qui élisent leurs dirigeants. En Angleterre, le mouvement des supporters trust permet à des coopératives de supporters de participer à la gouvernance de certains clubs. En France, après des crises financières, Bastia ou Sochaux ont également ouvert leur gouvernance à leurs supporters.
Mais est-ce que ces modèles sont aussi rentables?
Évidemment, tout dépend de ce que l'on entend par rentabilité. Si l'objectif consiste à attirer les capitaux les plus importants ou à maximiser la valeur financière du club, probablement pas. Mais si on regarde la stabilité financière, l'ancrage territorial, la fréquentation des stades, la résilience même face aux crises, le bilan est beaucoup plus nuancé. Comme le souligne Jérôme Latta, le football allemand, il montre qu'il est possible de limiter la financiarisation sans sacrifier la prospérité économique. Et dans son atlas du football populaire, Yann Dehel, lui, va plus loin encore. Le football populaire, explique-t-il, s'inscrit dans cette volonté de reprendre démocratiquement le contrôle d'un bien commun, confisqué par la logique marchande, hein, qu'on a vu et qu'on a expliqué ici. Mais ces expériences finissent toujours par rencontrer les limites imposées par le capitalisme, ce qui l'amène à conclure que la véritable transformation du football, elle suppose une transformation plus générale de la société elle-même.
Bon, en attendant, à la fin, c'est toujours le PSG qui gagne et donc le Qatar. Merci beaucoup.